accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Liebe Freunde, meine Damen und Herren, man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar.
Bonjour à tous. Une victoire cauchemardesque, titré ce matin le quotidien allemand Bild. Certes, la chancelière Angela Merkel réussit une performance inégalée en Europe, être élue pour un quatrième mandat à la tête du gouvernement, mais avec à peine 33% des voix, son parti, la CDU, sort très affaibli et il sera traqué sur sa droite, a déjà promis le parti populiste d'extrême droite Alternative für Deutschland. L'AfD, qui avec 13% des voix, fait une entrée historique et fracassante au Parlement. Il devrait pouvoir compter autour de 90 députés sur 700. Bonjour Julien Michossi, vous êtes notre correspondant à Berlin. Ce score de l'AfD est pour beaucoup la conséquence directe de la stratégie adoptée par Merkel pour conserver le pouvoir.
Oui, hein, même si ce score de l'AfD doit aussi évidemment beaucoup à la crise des réfugiés. L'ouverture des frontières en 2015 et l'arrivée de plus d'un million de réfugiés ont été ressentis comme une décision unilatérale de la part de la chancelière, suscitant un fort rejet dans une partie de la population. Mais il y a d'autres raisons, plus politiques. Pour le comprendre, il faut remonter aux élections de 2009. Le bloc conservateur CDU-CSU a gagné les élections de justesse et Merkel a du mal à contenir la colère de ses troupes. Alors, au cours d'une réunion des cadres du parti, elle donne la parole à Matthias Jung, surnommé le démographe de la chancelière. Il est à la tête d'un influent institut de sondage et Matthias Jung fait un calcul simple. Lors de chaque élection législative, la CDU perd 1 million d'électeurs. Pas parce qu'ils sont allés voir ailleurs, mais parce qu'ils sont décédés avec un électorat traditionnellement âgé. Il faut donc aller chercher de nouveaux électeurs au centre et moderniser le parti, tout en délaissant les valeurs conservatrices chrétiennes. Comme l'explique Matthias Jung.
Que ce soit par exemple dans la politique familiale, pour les femmes, elle a su établir petit à petit un cadre plus moderne en travaillant ses thèmes sur le long terme afin de gagner une réelle crédibilité. Elle ne se contente pas, avant chaque élection, d'écrire à la va-vite un programme qui colle à l'image souhaitée. Ce n'est pas comme ça que l'on gagne des élections. La chancelière a dû travailler chaque jour pour faire la preuve du changement de cap de son parti.
Alors on l'a bien compris Julien, ce coup de barre au centre a permis à Merkel de gagner de nouveaux électeurs, mais de l'autre côté, cette stratégie a créé un appel d'air sur sa droite dans lequel a su s'engouffrer l'AfD.
Et c'est ce qu'avancent de nombreux politologues ici. Cette stratégie de Merkel a d'ailleurs été théorisée et porte le nom de démobilisation asymétrique. Alors derrière cette expression aux accents scientifiques se cache en fait une tactique politique assez simple. Aller prendre chez l'adversaire des thèmes majeurs, se les approprier et assécher ainsi la concurrence. On l'a vu avec la sortie du nucléaire après Fukushima qui a fait très mal au vert, mais aussi l'ouverture des frontières en 2015 ou encore plus récemment le vote du mariage pour tous, lequel devait être un thème central de la campagne des sociaux-démocrates du SPD. Une stratégie qui fait le jeu de l'AfD, selon Fritjof Schmidt, vice-président du groupe des Verts au Bundestag.
Pour rester poli, je dirais qu'elle a adopté une approche extrêmement pragmatique ou tactique, c'est selon, quant à l'importance de son agenda politique. Cela conduit à une action vide de principe, de conviction, et donc à un néant politique. Et ça, c'est la définition même de l'opportunisme. Merkel est dans l'instrumentalisation. Si elle a le sentiment qu'il faut mettre un coup de barre à droite pour gagner des élections, elle le fait sans hésitation.
Et ce vide apparent de principe marié à un parti toujours plus au centre profite à l'AfD. C'est le revers de la médaille de la politique de Merkel. Mais comme le dit Fritjof Schmidt, il se peut que nous assistions à une redroitisation de la CDU lors de la prochaine législature pour justement contrer la montée de l'extrême droite.
Et puis autre pilier de la longévité d'Angela Merkel, Julien, son étroite collaboration avec les parlementaires.
Oui, c'est un aspect un peu moins connu mais d'une très grande importance dans cette démocratie allemande où le Parlement a un très grand pouvoir. Quand on parle avec des députés de la CDU, la grande majorité est admirative de la chancelière, elle qui n'a pas raté une seule fois les réunions du groupe parlementaire qui se déroulent tous les mardis à 15h, comme le raconte Michael Fuchs, qui est vice-président du groupe parlementaire de la CDU-CSU.
Cette longévité est uniquement possible si vous avez su bâtir la base de votre pouvoir au sein de votre groupe parlementaire. Et c'est ce qu'Angela Merkel a réussi à faire. La grande majorité des députés de CDU ou de CSU fait preuve d'une loyauté sans faille à son égard. Et pour moi, il est clair que ma loyauté envers Angela Merkel est une priorité absolue dans mon travail parlementaire.
Et cette loyauté, hein, elle va être mise à rude épreuve lors des prochaines semaines. Si Merkel est assurée de rester chancelière, elle doit maintenant former une coalition. Et après la décision du SPD de rejoindre l'opposition, la seule alliance possible, hein, s'annonce très compliquée entre la CDU, CSU, donc les libéraux du FDP et les Verts. Il faudra alors tout le savoir-faire politique d'Angela Merkel pour convaincre ses troupes d'une telle cohabitation, Frédéric.
Merci Julien Michossier. Le Parti social-démocrate, on l'a dit, qui était le principal partenaire de coalition d'Angela Merkel lors du précédent gouvernement, va désormais siéger dans l'opposition après avoir réalisé son pire score depuis la Seconde Guerre mondiale, soit 20,5%. Les négociations pour former une nouvelle coalition, sans doute avec les Verts et les libéraux, vont donc commencer. La chancelière a au plus un mois pour tout boucler avant de prêter serment. Une cérémonie toute simple, très loin du faste présidentiel français. C'est ce qu'a raconté Pascal Hugues à Catherine Roland dans son livre de chronique publié aux Arènes. Elle raconte les Allemands, mais aussi la chancelière.
En Allemagne, quand une chancelière est élue, ça se passe d'abord au Bundestag, et puis ça se passe très très simplement. Elle jure, Angela Merkel jure sur la Bible, et puis elle reçoit un gros bouquet de fleurs, on lui fait trois bises, et puis c'est terminé. Vous imaginez avec le passé de l'Allemagne qu'un nouveau dirigeant politique remonte les Champs-Élysées à bord d'une voiture militaire, c'est impensable en Allemagne. Et puis la scène où il traverse le cours Napoléon au Louvre avec la musique, tout ça dans une ambiance très solennelle et au crépuscule à la tombée de la nuit. Enfin ça aussi c'est impensable en Allemagne parce que ça rappelle de très mauvais souvenirs en Allemagne.
Alors justement, on va continuer sur la sobriété. D'un côté, les ors du palais de l'Élysée et de l'autre, la chancellerie beaucoup plus sobre, plus simple et qui a une vue sur les Allemands.
Pour l'Élysée, j'ai fait 6 heures de queue aujourd'hui du patrimoine l'année dernière et j'avais l'impression d'être dans de ces vieilles demeures. Vous savez que les aristocrates anglais qui n'ont un petit peu désargenté sont obligés d'ouvrir au public le week-end. Et je demandais à un des huissiers, je disais mais pourquoi on déménage pas autre part? Enfin c'est trop petit, c'est exigu, on sait pas où mettre tous les appareils, les ordinateurs, les câbles, etc. Et cet huissier me regardait avec des grands yeux en me disant, enfin comme si j'avais posé une question obscène, qu'on ne peut pas déménager le pouvoir. Alors que la chancellerie, ça aussi c'est l'histoire allemande, la chancellerie se trouvait à Bonn, elle a été déménagée à Berlin dans les années 90, elle a été construite par Helmut Kohl, donc c'est un bâtiment gigantesque, un bâtiment extrêmement fonctionnel, pragmatique, tout neuf, très clair, ouvert sur l'extérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est la vue des fenêtres du bureau d'Emmanuel Macron qui voit ce parc avec des arbres centenaires, qui est totalement loin du peuple. Il voit pas la rue, il voit pas... Coupé du monde, il voit pas les Français. Alors que la chancelière voit d'un côté le Parlement, à nouveau pour lui rappeler qui a le dernier mot dans la gestion des affaires de l'État, et de l'autre, elle voit le Tiergarten, qui est le grand parc au milieu de Berlin, et là, elle voit les Turcs qui font griller leur viande, elle voit les nudistes, elle voit les manifestants. Donc elle voit vraiment son peuple, elle est pas coupé du monde.
Alors on va justement prolonger un petit peu ces différences avec cette chronique très amusante que vous retranscrivez dans votre livre. Vous racontez en fait les différences entre les restaurants du Sénat et du Bundesrat, et différences assez significatives finalement.
Alors on m'a toujours parlé de ce restaurant du Sénat en me disant qu'il y avait des valets avec des gants blancs qui vous amènent des plats, qui a je sais plus 15 000 pièces d'argenterie. Et pendant des mois et des mois, mais même presque pendant un an, j'ai essayé d'y rentrer. Impossible. Et le Bundesrat, alors la même histoire, quand l'Allemagne s'est réunifiée, on a dû déménager le Bundesrat de Bonn à Berlin. C'est très moderne, mais c'est pas fastueux. Et là aussi, j'ai demandé à voir le restaurant. Et on m'a regardé avec des grands yeux en me disant, mais un restaurant, il n'y a pas de restaurant ici. Et il y a une espèce de cantine qui en fait est plus une buvette. On peut même pas cuisiner, il n'y a pas de cuisine, on peut simplement réchauffer les plats. Pas d'alcool. Un homme politique, pour qu'il soit populaire en France, il faut qu'il ait un bon coup de fourchette. Alors qu'en Allemagne, plus il travaille et il mange lance-pierre, un petit sandwich et ne boit pas d'alcool, il sera considéré comme plus fiable.
Dans les différences fondamentales, il y a aussi le traitement des affaires, ça on en parle beaucoup en France. Autre mœurs, autre tradition, en Allemagne, on ne badine pas du tout avec le mélange des genres.
Alors, on sait que Angela Merkel paye son café de sa poche quand elle va en boire un à la cafétéria du Parlement. Oui, effectivement, on badine pas. pas. Par exemple, il y avait un ministre de l'économie qui est tombé parce qu'il avait écrit sur le papier antenne de son ministère une lettre à un cousin de sa femme pour un petit peu améliorer ses affaires. Ce cousin voulait mettre en place des jetons, vous savez, pour les chariots dans les supermarchés. Et il a essayé de l'avantager un petit peu, enfin, en lui écrivant une lettre officielle. Il est tombé dans les deux mois qui ont suivi.
Est-ce que, finalement, vous avez trouvé ce fameux modèle allemand dont on parle tant en France?
Oui, c'est vrai que quand on va, et ça c'est vraiment très intéressant et très important pour comprendre l'Allemagne, c'est d'aller dans ces petites entreprises familiales qui sont nichées dans la province allemande, qui n'ont l'air de rien et qui en fait exportent à travers le monde, dont les patrons sont richissimes, et de voir comment se passent les rapports d'entreprise. Et c'est très intéressant de parler aux syndicats aussi. Pour un syndicat allemand, la grève c'est vraiment la dernière des possibilités, ce qui pour un syndicat français est immédiatement. Et donc il y a le partenariat social entre les syndicats et le patronat. Et quand il y a un conflit ou quand il y a une période de crise, comme il y en a eu en Allemagne il y a 10-12 ans, il y a des négociations salariales et on diminue les salaires et les heures de travail pendant une certaine période jusqu'à ce que ça aille mieux. Et les salariés sont d'accord, de façon à éviter des licenciements. Et comme il y a ce rapport de confiance et de dialogue, quand on traverse une période de crise, on se serre les coudes. Et ça se passe généralement plutôt bien.
Alors voilà pour le volet politique. On va passer un petit peu à la vie quotidienne, parce que même si on est assez proche, on est aussi très différent. C'est le rapport au corps et à la nudité. Alors vous comparez d'ailleurs deux jardins, le Luxembourg en plein centre de Paris, et puis Tiergarten à Berlin.
Tout ça a commencé parce qu'un jour, j'étais avec mon fils au jardin de Luxembourg, il devait avoir un an, il faisait une chaleur torride et je lui ai ôté sa couche pour qu'il puisse se balader. Et tout de suite, il y a un gardien qui est venu avec son sifflet m'arrêter en disant que c'était presque un attentat à la pudeur, comment peut-on ? Donc je l'ai rhabillé, on est parti. Quand vous observez au Luxembourg à l'entrée, il y a un panneau avec toutes les interdictions. Et en fait, tout est interdit. Or le mot verboten, qui veut dire interdit en allemand, quand vous regardez les films de guerre, on a l'impression que ce sont les Allemands qui interdisent tout, qui sont carrés, il y a des lois sur tout, c'est un pays régimenté. Et ce que je trouvais intéressant, en comparant ces deux jardins, c'est que ce cliché est complètement inversé. Il y a une vision de l'ordre qui est beaucoup plus stricte en France, alors qu'au Tiergarten, à Berlin, tout est permis. Vous pouvez pisser dans les buissons, vous mettre tout nu, vous pouvez faire des grillades, vous pouvez manifester, vous pouvez, les gens ramassent les fleurs. Enfin, c'est vraiment un rapport complètement différent à la nature et à l'ordre.
Was ist das, chronique d'une Française à Berlin de Pascal Hugues, est publiée aux éditions Les Arènes. Formés au métier du numérique, les chômeurs, les non-diplômés dans un département très rural, c'est l'objectif du réseau Simplon en France, qui a ouvert un nouvel établissement à Cheylard dans l'Ardèche, à 2h30 au sud-ouest de Lyon. Laurent Berthaud est allé la visiter.
Mais donc t'as pas eu besoin de redimensionner particulièrement les photos?
Non,
t'es passé par Flex pour...
Je suis passé directement en CCS sur Flex pour dimensionner mes images.
Quelques semaines de cours seulement et déjà les mains dans le cambouis, comprenez, dans le code, la base élémentaire pour la création de sites internet.
On a une mascotte un petit peu là, du coup, pour cette session de la formation Simplon, on a choisi le poireau. Donc du coup, il faut qu'on arrive à dessiner un poireau en code. Et donc on commence à bien se prendre la tête là.
16 élèves composent cette troisième promotion de l'école Simplon, du néophyte au plus aguerri. Tous sont demandeurs d'emploi et viennent des départements Drôme et Ardèche dans un rayon de 50 km. La Benjamine de la promo, Elodie, a 19 ans.
Donc à la fin de la troisième, j'ai arrêté les études parce que c'était pas fait pour moi. Et après, j'ai cherché du travail, j'ai fait des stages, etc. Ça me plaisait pas trop. J'ai fait un stage en coiffure. J'ai fait un stage aussi dans la vente, dans une petite boutique, prêt-à-porter, décoration, bijoux, etc. Comme je me suis dit, j'aime beaucoup l'informatique, j'ai préféré faire un truc dans l'informatique.
Ah non, fichier configuration.
À 47 ans, Pascal, technicien de maintenance, a vu sa carrière brisée par un accident de travail. Cette formation de 8 mois lui redonne confiance en lui et l'espoir de retrouver un travail.
Comme j'ai un handicap au niveau de l'épaule droite, je ne peux plus rien soulever ni m'en servir comme je m'en servais d'habitude. Donc du coup, il a fallu que je refasse une reconversion complète. Et n'étant pas complètement ridicule en informatique, j'ai postulé ici. Ça faisait 3 ans que j'étais au chômage et il n'y a personne qui me voulait. Et puis il y a une vraie envie, une vraie passion, une envie de créer quelque chose.
Ancienne assistante maternelle, ex-hôtesse de caisse, ancien commercial dans les télécoms, Les profils de cette promo sont particulièrement variés, ce dont se réjouit le formateur Jean-Bernard Huette.
La philosophie de Simplon, c'est de sélectionner des gens qui sont majoritairement éloignés du milieu de l'emploi et du milieu du numérique encore plus. Donc on travaille sur des profils qui sont sous-représentés dans le milieu de l'informatique. Donc ça va être par exemple les femmes, les travailleurs handicapés, les personnes issues de milieu rural, qui sont très peu présents en école d'ingénieurs par exemple.
Et des gens qui ne sont pas forcément diplômés.
Majoritairement des gens qui ne sont pas diplômés, donc des gens qui n'auraient absolument pas pu rentrer en IUT ou en école d'ingénieur, évidemment. Nous, c'est le public qu'on recherche, parce que c'est des gens qui sont très motivés, qui peuvent apprendre le code, parce que techniquement, apprendre les langages informatiques, ce n'est pas excessivement compliqué. C'est l'hétérogénéité qui crée l'homogénéité de la promotion, c'est ce qu'on veut faire.
Les élèves sont incités à travailler en autonomie et à échanger leur savoir pour faire aboutir leur projet. La méthode paie. Sur les deux premières promos à obtenir un diplôme national équivalent à Bac plus 2, 70% ont repris un emploi dans le développement ou l'informatique, soit en tant que salarié, soit comme auto-entrepreneur.
Donc voilà, la petite mise à jour a eu lieu, du coup je peux lancer le serveur.
C'est le cas de Marie Fontanelle, 37 ans, qui avec un autre simplonien a monté il y a 2 ans l'agence Radium, à 1 heure de route du Cheylard, avant de revenir dans son village natal pour y travailler en tant qu'indépendante.
C'est pas parce qu'on est dans un territoire un peu reculé qu'on ne peut pas faire des choses dans le numérique et dans les métiers qui sont porteurs actuellement.
Le terrain est favorable, tout en étant éloigné des grandes villes de la vallée du Rhône. Le Cheylard dispose d'un tissu industriel solide, avec quelques entreprises de pointe, mais qui, pour la plupart, n'ont pas encore investi dans leur communication numérique. Il y a donc un marché. C'est bien pour cela que la communauté de communes du Val-d'Erieux, qui regroupe plus de 13 000 habitants, soutient activement le projet.
C'est un épisode assez méconnu de la Seconde Guerre mondiale. La fuite des enfants allemands de Königsberg qui allaient devenir Kaliningrad après l'occupation soviétique. Des enfants qui fuient seuls vers la Lituanie voisine et qu'en raison de leur errance, on appelle les enfants loups. Aujourd'hui, leur histoire est reconnue et le musée de Klaipėda sur la côte lituanienne a voulu retracer leur parcours. Marielle Vituro.
L'indépendance de la Lituanie, Arne Schneider a voulu la marquer à sa manière. Elle a repris son nom allemand, celui que ses parents biologiques lui avaient donné à la naissance. Pendant de longues années, elle avait été appelée Stanislava Ona Gražulytė, du nom de sa famille lituanienne d'adoption. Au printemps 1945, Erna, 11 ans, sa sœur aînée, son frère d'à peine 5 ans, orphelin, fuit les soviétiques vers la Lituanie dans un wagon à bétail. Pour survivre, il passe de famille en famille, travaille dans des fermes, il parle à peine le lituanien et sont à la merci des gens plus ou moins bien intentionnés qui les recueillent. Par chance, les trois frères et sœurs ne sont pas séparés et sont finalement adoptés par un couple de Lituaniens qui leur donne une nouvelle identité. C'est ainsi que Erna, Frida et Andreas deviennent Stanislava Ona, Janina et Algirdas. Une identité qui a aussi permis de les protéger. Les enfants loups ont fui l'armée rouge dans la région de Kaliningrad, mais ils retrouvent les soviétiques dans un régime lituanien, alors sous la coupe de l'URSS. À l'époque, les agents du KGB traquent les Allemands, tous considérés comme fascistes après la guerre. Mieux vaut alors avoir un prénom lituanien. Le cas d'Erna est loin d'être isolé. L'exposition rend hommage au travers de quelques histoires vécues au parcours de ces milliers d'enfants qui ont vagabondé pendant longtemps pour pouvoir survivre. Leur vie, comme celle de Lucie Mikolajt, 74 ans aujourd'hui, est marquée par une lutte permanente. Elle a dû se battre pour faire reconnaître son histoire. Obtenir le passeport allemand a été pour elle un parcours du combattant. Sa famille, qu'elle a retrouvée en Allemagne, n'a pas voulu se soumettre au test de parenté. Elle est partie vivre, mais comme beaucoup, elle ne se sent ni lituanienne ni allemande. Une existence encore marquée par la guerre après plus de 70 ans.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.